Chapitre 16.
Émile ?
Appelle Myrtille, assise devant la télévision. Il est tout près, arrosant les plantes sur les petits escaliers menant à la cour intérieure.
Je suis là.
Assieds-toi.
Il est surpris, mais il obtempère. Il tire une chaise encombrée de prospectus de publicité, les fait tomber par terre d'un revers de la main et s'y assoit.
Annie vient de partir.
Je sais.
Elle dit que Jean a retrouvé le vélo dans Eous, celui qu'elle t'avait laissé. Il était dans une ruelle, apparemment, depuis plusieurs jours.
Émile est embêté. Il ne sait pas si l'air soucieux de Myrtille est provoqué par la perte du vélo et son silence à ce sujet. Il commence à bredouiller quelque chose pour lui assurer qu'il en est désolé, qu'il s'arrangera pour le réparer de nouveau s'il le faut, mais la vieille dame l'interrompt.
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as chuté?
Il secoue la tête.
Non, non, ça n'est pas un...
Tu t'es perdu?
Elle caresse Canaille de façon mécanique, sans vraiment y penser. Toute son attention est centrée sur Émile.
Ouais, je me suis perdu.
C'est ce fameux jour où vous nous aviez proposé de nous faire des photos de mariés et où j'ai quitté la maison un peu vite.
Myrtille hoche la tête. Elle a son regard profond qui sonde tout.
Tu as disparu la journée entière, non?
Ouais, j'ai aucune idée de ce que j'ai pu faire. Quand j'ai retrouvé ma lucidité, le vélo n'était plus là et j'ai eu un mal fou à retrouver le chemin pour la maison. Je suis vraiment désolé pour la négligence. Je n'avais pas vraiment l'intention de perdre ce vélo.
Je m'en fiche du vélo, mon garçon. C'est pour ça que tu ne sors plus de la maison?
Il a honte de se l'avouer, mais c'est vrai. Depuis cet épisode, il invente des tas d'excuses pour ne plus avoir à s'aventurer seul dans le village. Au début, il attendait juste que Johan sorte faire un tour pour l'accompagner et s'échapper un peu avec elle. Mais maintenant qu'elle aide cette amie d'Annie chez le glacier à longueur de journée, il ne met plus un pied dehors.
Ouais, j'essaie d'éviter de sortir. Je ne me suis plus perdu, puisque je ne sors plus.
Et le reste?
La confusion?
Oui, la confusion.
Il ne sait pas vraiment. Il ne s'est pas retrouvé dans une situation aussi confuse que ce jour-là, dans les ruelles d'Eous, avec sa canette à la main. Mais il a connu de brefs épisodes perturbants. Il s'est retrouvé à ranger sa brosse à dents dans le réfrigérateur un matin. Un autre, il a réalisé que la douche était en train de couler et qu'il avait oublié de l'éteindre une heure plus tôt. Et ce matin, il a appelé Johan Marjorie. Mais ça n'était que de l'étourderie. En tout cas, c'est ce qu'il s'est dit sur le moment. Il sait bien que c'est le processus normal de la maladie, mais tant que ça en reste à des étourderies et des bizarreries, il se dit que ça n'est pas trop grave. Ce sont les blackouts qu'il redoute par-dessus tout.
Rien de très grave, mais oui, j'ai eu quelques étourderies.
Il est pris d'inquiétude tout à coup.
Pourquoi? Est-ce que Johan vous a dit quelque chose?
Myrtille secoue la tête.
Non, elle ne m'a rien dit du tout.
Ça a l'air de la rendre heureuse, ce travail chez le glacier, non?
Demande Émile en interrogeant Myrtille du regard. Elle acquiesce.
Oui, ça a l'air de lui faire du bien de sortir d'ici, un peu.
Elle fait claquer sa langue contre son palais.
Et tu devrais faire comme elle.
Son regard se fait fuyant. Il fait mine de se concentrer sur la télévision, mais Myrtille n'est pas dupe.
Ce n'est pas en restant cloîtré ici que tu vas ralentir l'évolution de cette foutue maladie. Au contraire, tu devrais t'aérer un peu.
Il répond avec un air bougon.
Vous n'allez pas me revoir pendant 3 jours. Je risque de me perdre dans une ruelle.
Alors demande à Joanne de t'accompagner.
Elle travaille.
Elle ne travaille pas, elle donne un coup de main. Elle peut prendre une matinée pour se promener avec toi.
Je ne sais pas si elle en a envie.
Myrtille se met à le gronder comme un petit garçon.
Non mais tu t'écoutes un peu, Émile. Quelle mauvaise foi. Regarde ce temps, il fait beau. Il y a un petit vent frais. Tu pourrais aller lui rendre visite au glacier. Je suis sûr qu'elle serait contente. Ne me dis pas que tu vas te perdre. C'est à peine à 4 minutes d'ici. Je te promets d'envoyer un hélicoptère faire un vol de reconnaissance si tu n'es pas rentré dans 1 heure.
Elle soulève Canaille de ses genoux et le pose par terre.
Allez, oust !
Elle leur parle à tous les deux. Elle leur fait de petits gestes de la main pour leur dire de déguerpir.
Il fait beau, sortez prendre l'air pour moi.
Il y a 2 semaines, Joanne revenait de son premier jour chez Coco Glacier ravie. Et depuis, elle y file dès les premières heures du matin et ne revient que le soir. Émile s'est étonné.
Il y a autant de travail que ça ?
Et Joanne a haussé les épaules.
Non, mais j'aime bien rester derrière le comptoir et observer les allées et venues du village. C'est apaisant.
Il a l'impression de rajeunir de 10 ans en 1 seconde lorsqu'il se retrouve sous le doux soleil de septembre, les pieds battant le pavé. Myrtille n'a pas tort. Il a eu raison de l'écouter. Ça fait un bien fou de se remettre en mouvement, de sentir les rayons du soleil. Il a l'impression que ça fait des années. Il a l'impression de retrouver la vitalité de ses 20 ans. Les ruelles d'Eous lui paraissent désertes en ce milieu de septembre, après l'agitation du mois d'août. Quelques touristes ici, un groupe scolaire là, mais c'est relativement tranquille. Il se sent tellement léger, soudainement, qu'il s'offre même un détour par la galerie d'art avant de rejoindre le glacier indiqué par Myrtille. C'est une petite boutique à la devanture rose bonbon et à l'écriture blanche qui indique « Coco Glacier, glace artisanale et originale ». La boutique est ouverte sur l'extérieur. Quelques tables et chaises en plastique ont été installées dans la ruelle et un couple de touristes s'y prélassent. Dans le comptoir réfrigéré, une 20aine de pots de glace de toutes les couleurs aguiche le passant. Et derrière le comptoir, sous son grand chapeau noir, se trouve Joanne. Elle semble agréablement surprise de le voir.
« Émile !»
Il se plante devant le comptoir, un peu maladroit.
« Eh ouais, je suis sorti. »«
Tu as raison, il fait doux aujourd'hui. »
Elle semble seule dans la boutique, mais un bruit dans le fond de la salle indique que Corinne, la patronne, doit faire du rangement dans une réserve ou une chambre froide.
« Comment ça va ? Tu t'en sors ?»
Elle acquiesce.
Oui, je connais tous les parfums par cœur maintenant, et j'ai même quelques habitués qui reviennent tous les jours.
Une porte claque derrière Joanne, et une femme blonde d'une 50aine d'années fait irruption, un bandeau bleu dans les cheveux et un bac en plastique à la main. Elle a l'air avenant. Elle a un grand sourire et une voix chaleureuse quand elle le salue.
Bonjour, Joanne s'occupe de vous ?
Il va pour répliquer, mais Joanne s'en charge.
« Non, Corinne, c'est Émile. »
La femme ne semble pas saisir et Joanne ajoute.
« Mon mari. »
Il a du mal à réprimer un tic en l'entendant prononcer « mon mari ». Il espère que la dénommée Corinne ne l'a pas remarqué. Visiblement, non. Son sourire s'élargit encore.
« Oh, ravi de vous rencontrer, Émile. Eh bien, passez commande, ne vous gênez pas. C'est offert par la maison. »«
Oh, c'est gentil, mais... »
Vous m'en direz des nouvelles. On a un nouveau parfum sur lequel j'aimerais beaucoup avoir des avis.
Elle a un large sourire amical et bienveillant. Il comprend pourquoi Joanne aime passer des heures ici. Elle doit être d'agréable compagnie.
Hein ?
La glace à la fleur de sureau.
Oh, ça c'est original.
Joanne n'est pas très fan, mais j'aimerais avoir un autre avis.
Il a un haussement d'épaule amusé.
« Bon, alors, s'il le faut... »
Corinne se tourne vers Joanne.
« Je te laisse servir ton mari, j'ai encore des bacs à laver. »« Bien sûr. »
Elle disparaît aussi vite qu'elle est apparue, et Joanne se retrouve les bras ballants derrière le comptoir. Il laisse son regard vagabonder sur les bacs, essayant de déchiffrer les parfums.
« Tu as quelque chose d'alcoolisé ? Je vais en avoir besoin pour me remettre de la répétition traumatisante du terme « mon mari » dans une seule conversation. »
Joanne se met à rougir, ce qui fait rire Émile.
Je savais pas comment... Je voyais pas comment...
Elle a l'air vraiment embarrassée, ce qui le fait rire encore davantage.
C'est rien. C'est bien ce que je suis. Va juste falloir que je m'y habitue.
Elle s'empresse de piocher dans le bac de fleurs de sureau pour masquer son trouble. Puis elle attrape un cornet et y dépose la boule.
Et donc, avec ça ?
Tu m'as toujours pas dit ce que t'avais d'alcoolisé.
Elle reste rougissante mais imperturbable dans son rôle de vendeuse de glace. Elle garde la tête baissée sur ses bacs et énumère avec sérieux.
Citron limoncello, baba au rhum, noisette amaretto, Irish coffee.
Noisette amaretto.
Noisette amaretto, d'accord.
Elle s'applique à former une jolie boule qu'elle ajoute dans son cornet. Elle lui tend la glace en esquivant encore une fois son regard.
Combien je vous dois, madame ?
Il s'amuse de la voir si sérieuse et si gênée.
Rien. T'as entendu Corinne ?
Bon, eh ben, merci.
Il récupère la glace qu'elle lui tend et reste planté devant le comptoir réfrigéré sans trop savoir ce qu'il doit faire, s'il doit partir ou la manger en face d'elle de façon un peu idiote. Elle lui désigne les petites tables et chaises en plastique.
Assieds-toi ici, on n'a pas grand monde aujourd'hui, tu pourras profiter de la terrasse.
Le couple de touristes installé ici est justement en train de partir. Émile s'assied à la table la plus proche du comptoir et commence à manger lentement, les jambes étendues au soleil.
Tu t'ennuies pas ici toute la journée ?
Interroge-t-il. Elle secoue la tête.
Non, j'étais en réserve avant. Je lavais les bacs et je refaisais les étiquettes. Je suis contente d'être au comptoir maintenant.
Tu médites en attendant les clients ?
Joanne lève les yeux au ciel.
Tu te moques de moi ?
Pas du tout.
Il attaque le cône avec appétit.
C'est toi qui m'as dit que tu aimais la méditation. Rappelle-toi dans ton premier mail.
Il regarde une dame traverser la ruelle, promenant un chien en laisse.
Moi qui pensais que pour méditer, il fallait s'asseoir en tailleur et fermer les yeux, ajoute-t-il.
Elle lui répond avec un air parfaitement sérieux.
Pas forcément.
Hein ?
Moi, je pratique la méditation en pleine conscience.
Il lève les yeux au ciel, car ce qu'elle lui raconte lui semble être du chinois.
Désolé, je ne maîtrise pas toutes les subtilités de la méditation.
Elle hausse les épaules. À ce moment, Corinne traverse de nouveau la boutique, s'essuyant le front du plat de la main. Elle lance à Émile.
Alors ?
C'est délicieux.
Elle a l'air ravie. Elle lève un pouce en l'air et déclare.
Reviens demain, tu testeras d'autres parfums. Tu devrais essayer de refaire quelques petits boulots à droite à gauche.
Je sais pas trop. Je verrai.
Les petits boulots ne sont plus d'actualité. Il n'ose pas le dire clairement à Myrtille, mais il se demande bien en quoi il serait utile à quiconque avec ses étourderies de vieux fou. Ce matin encore, il a retrouvé sa brosse à dents dans un endroit improbable, sous son oreiller. Il s'en est amusé parce que Joanne était là et le regardait avec les sourcils froncés, mais ça ne le fait pas vraiment rire. Il se demande dans quel état il va finir. Il se demande si le pronostic des médecins est le bon. Il a l'impression que les choses s'accélèrent en ce moment. Ou bien la sédentarité révèle davantage sa difficulté à s'organiser dans le quotidien. Un des premiers signes de sa démence. Maintenant, il a de nouvelles routines. Plus question de petits boulots. Le matin, il prend son temps. Il traîne un peu dans le studio. Il va discuter quelques minutes avec Myrtille. Ensuite, il s'occupe du petit Poc. Il joue avec lui dans la ruelle ou dans la cour intérieure. Après le repas, il fait une sieste, puis il prend un thé bien noir avant de mettre le nez dehors. Il fait un petit tour dans Eous, en essayant de ne pas trop s'éloigner. Il a peur de se perdre de nouveau. Puis il s'arrête chez Coco Glacier et il déguste sa glace en regardant les passants. Joanne pose ses coudes sur le comptoir, son menton entre ses mains, et ils discutent de tout et de rien, de l'orage qui s'annonce, des progrès de Poc, des parfums de glace qu'il préfère. Émile en a testé une bonne dizaine maintenant, mais son classement ne fait que changer. La fleur de sureau a été détrônée par l'ananas basilic, elle-même détrônée par la glace à la cacahuète. Joanne reste plus constante, elle, et extraordinairement simple. Son parfum préféré est la pomme du verger.
Émile se moque toujours d'elle. C'est bien la peine de travailler ici avec tous ces parfums pour rester bloqué sur une glace à la pomme.
Joanne lève les yeux au ciel et ne répond rien. Le soir, il se retrouve au studio et il dîne en écoutant la radio.
Ils ressemblent à un vieux couple, mais ça leur convient.
J'ai pris du poids, non ?
Émile est debout devant le miroir. Johan se brosse les dents juste devant lui, penché au-dessus du lavabo.
Hein ?
Fait-elle la bouche pleine de mousse.
J'ai pris du poids.
Elle a un haussement d'épaule qui n'augure rien de bon.
Je devrais arrêter les glaces, ou me remettre au sport.
Il ne la voit pas qui tente de contenir son amusement. Il réfléchit en regardant son menton qui s'est arrondi, ses joues qui ont pris du volume, les poignées d'amour qui apparaissent.
Ouais, ça pourrait être une bonne idée de faire un peu de sport. Je pourrais faire quelques pompes et abdos ici.
Ça ira mieux quand on reprendra la route, dit-elle.
Ils ne se disent jamais quand ils reprendront la route. Ça reste flou et lointain. Sans doute parce qu'ils n'ont pas envie de partir tout de suite. En tout cas, pas Johan. Elle est plus légère que jamais depuis qu'elle vend des glaces.
Je vais me remettre au sport. Mais t'aurais pu me dire que j'avais grossi.
Cette fois, Johan sourit pour de bon. Elle n'arrive plus à se retenir.
Qu'est-ce qu'il y a ? Demande Émile.
Elle s'éclipse en dehors de la salle de bain. Il lui crie.
Tu penses qu'on ressemble à un vieux couple de retraités, c'est ça ?
Il la suit dans la pièce principale où elle est en train de chercher son chapeau noir.
C'est vrai, on est censé prendre du poids quand on se marie, non ?
Probablement.
Alors on a un mariage plutôt réussi ?
Elle a trouvé son chapeau. Elle le pose sur sa tête et récupère son sac bandoulière.
Pense à sortir Poc. Il fait que miauler sur le rebord de la fenêtre,
lance-t-elle.
Oui, chérie.
Elle grimace, ce qui le fait sourire encore plus.
À tout à l'heure. Pour le goûter,
lance-t-il en la suivant vers les escaliers.
Je croyais que tu arrêtais les glaces.
J'ai dit que je me mettais au sport.
Ah, donc tu continues les glaces.
Oui, pas trop de changements d'un coup.
Elle lève les yeux au ciel. Les jours se suivent et se ressemblent en apportant quelques touches de nouveauté de temps à autre. Une balade dans la garrigue avec Johan un dimanche. Un dîner chez Annie et son mari en compagnie de Myrtille. Le mois de septembre est déjà bien entamé. Les jours raccourcissent. Les ruelles se vident. La chaleur se fait plus douce, plus diffuse. La lumière blafarde a été remplacée par de jolies lueurs orangées. Les arbres commencent doucement à perdre quelques feuilles. Poc est de plus en plus indépendant. Canaille et lui se mettent déjà à se battre.
Salut, tu dors ?
Émile est affalé dans le canapé, à demi endormi. Il se redresse brusquement, un peu honteux, et répond
« Non, je fermais juste les yeux. »
Johan est de retour du travail. Elle dépose son sac sur la table basse et ébouriffe ses cheveux mouillés par la pluie. Visiblement, il pleut encore.
« Comment a été ta journée ? »
demande-t-elle.
« Ça va. Et la tienne ?»
Corinne m'a dit de ne plus revenir.
« Quoi ?» Il n'est pas sûr d'avoir bien entendu, mais Johan confirme d'un hochement de tête.
« Il n'y a plus grand monde à Eos, plus beaucoup de clients. Elle s'en sortira seule. »«
Ah !»
Il sent la déception dans sa voix.
« Ça va te manquer. »
« De toute façon, il va être temps de repartir, non ?»
Elle a repris une expression des plus neutres et elle le sonde. Il ne veut pas l'influencer. Il meurt d'envie de reprendre la route, mais il ne veut rien lui imposer. Il n'est pas seul dans son périple, et c'est le prix à payer. Il esquive la question.
« Je sais pas. Tu veux partir, toi ?»«
On est bien ici, mais l'hiver va arriver. Après, il fera trop froid pour reprendre la route, non ?»«
C'est vrai. »
Et puis, j'ai eu l'impression que tu commençais à t'ennuyer ici.
Il est surpris qu'elle l'ait remarqué. Il a fait son maximum pour ne pas laisser transparaître son ennui et son manque d'entrain. Il ne voulait pas entacher sa bonne humeur.
Non, c'est que, disons...
Tu peux le dire. Moi aussi, j'ai envie de reprendre la route.
Il lui sourit avec soulagement. Ils sont sur la même longueur d'onde. Il est rassuré. Pendant un temps, ils gardent le silence, chacun perdu dans ses pensées.
« Il va falloir l'annoncer à Myrtille. »